Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Foot, une émission qui, et c'est la moindre des choses, aime les buts que l'on marque et ceux que l'on défend également. À quoi jouent les gardiens de but, les numéros 1, on s'en question. C'est notre conseil lecture du jour, ça tombe bien, l'auteur de ce livre porte aussi les couleurs de notre équipe. Bonjour David Lortelari.
Salut Hugo, salut à tous.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les portiers, c'est d'une certaine manière le concept de votre ouvrage paru aux éditions Marabout. On peut dire ça comme ça ?
Oui, modestement, un petit manuel à la fois à destination de ceux qui s'intéressent aux grandes stars et à destination de ceux qui aimeraient aussi être gardien de but quand ils sont jeunes.
Vous disséquez tout, le physique, le mental, l'entraînement et même l'accoutrement des gardiens de but. Vous vous appuyez sur des intervenants de grande qualité, dont un gardien de légende, un autre membre de la grande équipe de RFI, un certain Joseph-Antoine Bell. Bonjour Joe.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous rendre visite. Le consultant de RFI lors de la CAN, double champion d'Afrique, ancien gardien de Bordeaux, de Marseille, de Saint-Etienne. Que dire qu'il n'ait pas déjà été dit mille fois sur vous. Merci en tout cas d'être avec nous ce jeudi.
Il faut toujours le dire pour les plus jeunes.
C'est vrai. Et c'est aussi à ça que servent les livres, les émissions de radio. Voilà, le football, c'est de la culture, c'est du patrimoine. Grâce à vous, Joseph-Antoine Bell, grâce à Thomas Nkono, grâce à Jacques Songo, entre autres, grâce à André Onana, on peut dire que le Cameroun est un pays de numéro un pays de gardiens de but. L'Afrique est un continent de gardiens. David Lortelari consacre d'ailleurs un chapitre au continent. Autre grand pays de gardiens, cher à votre cœur, mon cher David, l'Allemagne de Sepp Maier, d'Oliver Kahn, de Manuel Neuer. Nous ferons le point sur les débuts de la Bundesliga tout à l'heure. Mais avant, nous prendrons des nouvelles du Paris Saint-Germain. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors sachez Dominique qu'une belle photo d'Alphonse Areola, le portier du PSG, donc, figure sur la couverture du livre de David Lortolari.
Il va
un petit peu parler des gardiens du PSG.
Sujet, bon, c'est un livre sur les gardiens,
sensible.
D'accord. Il a pris Areola, d'accord.
Apparemment.
D'accord, très bien.
Mais c'est surtout Neymar qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous rassure, encore et toujours, Neymar, faute d'offres satisfaisantes, le Paris Saint-Germain doit-il se résigner, entre guillemets, à garder sa star brésilienne? Réponse dans quelques instants. Le temps de saluer Jean-Philippe Bouchard. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Saïd Hamda, l'espoir, le crack de Radio Foot. Bonjour Saïd.
Bonjour Hugo.
Radio Foot, c'est parti.
Daniel Vez qui prend son temps, qui trouve Neymar, et celui-là sera validé. Le but de Neymar sur un service parfait de son grand ami Daniel Vez. C'est le dernier match de la saison de Neymar. Il a envie d'en profiter, il a envie.
Le 11 mai dernier, Neymar disputait son dernier match officiel sous les couleurs du Paris Saint-Germain, inscrivant à cette occasion un but de la tête. C'était à Angers. Depuis, dans cette même caboche, les choses sont claires. Il veut quitter le PSG, Neymar, il veut rejoindre le Barça, le Real Madrid éventuellement, tout sauf Paris. Problème, le mercato se referme bientôt, le 2 septembre, très exactement. Aucune offre ne satisfait pour l'instant les dirigeants parisiens, même pas celle formulée récemment par le Real Madrid. Elle a pourtant de la gueule, Saïd Hamda.
C'est ça, on est bien loin des propositions barcelonaises. Là, on est sur du concret. Madrid tape fort. 100 millions d'euros, plus Bale, plus James et Keylor Navas, offre refusée par Paris, malgré la présence des 100 millions en cash, une condition qui plaît tant à Paris. À noter aussi la présence de Navas dans le deal, un joueur qui plaît aussi du côté de Paris. Seulement voilà, le club n'est pas prêt à récupérer n'importe qui dans la balance et espère sélectionner les joueurs qu'ils veulent. Il semblerait que Isco et Lucas Vazquez soient plus pertinents pour la direction parisienne. Ce sont des joueurs que Madrid serait disposé à laisser partir aussi. Donc on pourrait s'attendre à une deuxième offre avec des alternatives différentes. On garderait le socle des 100 millions et on ajouterait donc Vazquez et Isco en plus de Navas. Autre combinaison possible, l'ajout de Modric et Jovic. Mais ça, Paris est beaucoup moins favorable. La Casablanca pourrait également abandonner la piste tout simplement puisque Zinedine Zidane, comme vous le savez, n'est pas favorable à l'arrivée de Neymar. Donc, il reste 12 jours pour décantiquer ce petit problème.
Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Anton Bell, de ce troc de joueurs, peut-être, allez, mon ailier contre ton milieu de terrain, et puis quelques millions d'euros par-ci par-là.
Je pense qu'on n'avait jamais atteint ce niveau-là. Cette fois, véritablement, ceux qui ne nous aiment pas vont nous tirer dessus. Le foot, c'est devenu uniquement le business. Ça paraît comme ça, comme une affaire au vrai marché, ou en plus, marché pas forcément en France, où on négocie le prix, où le prix affiché ne veut rien dire, où on rajoute un peu, on en enlève un peu. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'au fond d'eux-mêmes, finalement, les dirigeants parisiens n'aimeraient pas voir partir Neymar.
Alors, justement, on va poser la question à Dominique Sévrac, confrère du Parisien. Vous êtes bien informé. Est-ce qu'on s'achemine vers un accord avec le Real ou le Barça? Le Real semble davantage disposé à aller dans le sens des dirigeants parisiens. Ou bien est-ce que le scénario le plus probable, c'est Neymar reste à Paris la saison prochaine?
Très compliqué de démêler le vrai du faux. Ce que je sais moi, mais après chacun viendra avec ses informations, donc moi je suis pas là pour donner des leçons, c'est qu'il n'y a jamais eu d'offre du Real Madrid concrète sur la table du Paris Saint-Germain.
Ah donc vous...
Je vous dis que pour moi il n'y a pas eu d'offre du Real Madrid.
D'accord.
Il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu une offre concrète. Vous savez, les offres c'est écrit, c'est ou c'est verbal éventuellement, mais c'est pour que ça soit concret, on travaille sur des offres écrites. Il n'y a jamais eu d'offre écrite arrivée sur le bureau de Leonardo ou sur le bureau du Paris Saint-Germain de la part du Real Madrid. Il y en a eu de Barcelone, qui ne satisfont pas le Paris Saint-Germain parce qu'elles sont souvent à base d'un échange de joueurs qui ne plaisent pas au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain veut vendre Neymar à ses conditions, c'est-à-dire beaucoup d'argent et pas tellement avec un échange de joueurs pour faire baisser le prix. Donc c'est comme Barcelone n'a pas véritablement soit d'argent, soit une folle envie de Neymar. Moi je pense qu'entre Barcelone et Paris, le deal ne le sera pas. Je pense que le Real Madrid n'en veut pas non plus. Donc il n'ira pas au Real Madrid, et je pense que le championnat italien ferme dans le sens des arrivées dimanche, 25 août, donc ça c'est trop court pour qu'il aille à la Juve. Donc à la fin, je pense qu'il va rester le 2 septembre à minuit, c'est-à-dire le 3 septembre à 8h du matin, il sera au Paris Saint-Germain, ouais, il sera plutôt aux États-Unis parce que la sélection brésilienne se réunit pour deux matchs amicaux contre le Pérou et le Chili, à Miami et à Los Angeles. Mais sinon, il sera parisien après le 2 septembre.
Bref, on récapitule des informations dont on cherche encore, à clarifier. Non, vous avez bien fait de partager les vôtres. La date de clôture du mercato qui se rapproche. Du coup, Neymar à Paris pour la saison en cours. Hein, je parlais de la prochaine saison. Elle a déjà commencé la saison. Ça.
Le simple fait que ces rumeurs ou ces informations circulent comme ça dans la presse et journaux tend à prouver qu'il n'y a rien de concret, en fait. Parce que les négociations, quand elles se font vraiment, on n'entend parler qu'après. En général, les clubs se mettent d'accord, et une fois qu'ils sont d'accord, ils communiquent, et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand ça filtre en dehors, en plein milieu d'une négociation, en général, c'est que ça n'aboutira pas. Et en fait, on voit bien ce qui se passe, c'est que personne n'a envie de mettre de cash pour Neymar. C'est quand même ça la question. Et le PSG, en raison du fair-play financier, a besoin d'argent, a besoin de il peut pas de prêt avec option achat ou je sais pas quoi. Il est déjà engagé sur un deal comme ça avec Mbappé, donc il veut du cash tout de suite. Et je pense qu'il y a aucun club en Europe qui est prêt à ça, et en club en tout cas où voudrait aller Neymar, parce qu'il y a aussi la volonté du joueur.
Mais lui pourrait faire Barcelone.
Voilà. Oui, oui, mais sauf qu'en l'occurrence,
c'est le seul club qui ne peut pas l'acheter, ça c'est sûr.
Et je pense aussi que c'est l'occasion pour les autres de. Je ne vais pas utiliser le terme de corriger, mais les autres qui n'avaient pas apprécié, souvenez-vous très bien, le départ de Neymar et la manière qatari à l'époque de venir et de montrer que c'est l'argent qui commande tout et qu'on peut tout faire. Et les autres aujourd'hui, à l'inverse, veulent montrer qu'il n'y a pas, bon ben voilà, c'est vous qui avez voulu payer 222 millions, ce qui a fait exploser tous les autres prix derrière. Et aujourd'hui, personne ne veut leur rendre cet argent-là. D'abord parce qu'on ne veut pas, mais ensuite aussi parce qu'on n'a pas de pétrole à Barcelone, on n'a pas de pétrole à Madrid, on n'a pas de pétrole à la Juve non plus. Donc je crois qu'il y a aussi ça qui fait que bon ben on veut pas suivre avec du cash, on veut amortir un peu le choc.
Mais Neymar, le PSG ne veut pas nécessairement s'en séparer, c'est lui qui veut à tout prix.
C'est ça. Partir.
Oui, oui, mais c'est ça.
On est bien d'accord. Mais oui. Du coup, peut-il se résigner, lui? Alors je parlais du PSG, mais on va plutôt prendre le problème du point de vue de Neymar. Peut-il se résigner à rester? Peut-il se résigner dans un club qu'il veut absolument quitter, David Lortolari? Puis après. Moi, c'est avec vous, Dominique.
Ce cas-là, et il y en a d'autres maintenant dans le foot, mais ça dépasse complètement le sportif, parce que le sportif, quand je regarde le quotidien de l'équipe, moi, ce matin, si j'accorde foi à l'information qui est proposée, sportivement, moi, si on me propose d'échanger mon Neymar contre 100 millions d'euros, plus Gareth Bale, plus Navas le gardien, plus James Rodriguez, je dis oui tout de suite, sur le plan sportif. Oui, tout de suite, sans réfléchir. Enfin, en réfléchissant par rapport à ce que j'ai connu des saisons passées de ces joueurs-là et de l'argent qu'on me propose. Donc, ça dépasse le cadre du sportif. Une fois qu'on a compris ça, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect de l'image. Et ça, peut-être que pour un club et pour des dirigeants comme ceux du Paris Saint-Germain, ça compte presque davantage, ou au moins tout autant que le sportif. David, à partir de ce moment-là, vous gardez Neymar.
Comme l'a dit Joseph Antoine, c'est un peu le marché aux bestiaux. Oui. C'est-à-dire que par exemple, Gareth Bale, il n'a pas envie de venir à Paris. On fait comment alors?
Voilà.
On lui dit, tu viens quand même? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la négation du foot, du choix sportif, c'est quand même un peu scandaleux, non, de dire. Alors attendez les gars,
c'est vrai à d'autres échelles.
Alors, limiteur, l'entraînement, toi, aligné, là, mettez-moi les trois. Alors toi et toi, tu pars pour Paris.
On n'accepterait pas ça. Non, les travailleurs normaux n'accepteraient pas ça.
On voit des vidéos tous les jours sur dans les abattoirs français, sur les lapins. Là. Là, franchement, c'est pareil. Là.
Ça chaud, regardez.
Il y a beaucoup d'argent. À la fin, ils sont bien payés. Non, mais juste pourquoi on en arrive à ce genre de deal qui circule? Il faut juste expliquer aux gens qui nous écoutent. Partout dans le monde et beaucoup en Afrique, qu'il y a des agents qui ont tout intérêt à faire croire que ce deal-là existe. Parce que eux, ils veulent mettre une pression sur un club, un des négociants. Peut-être Paris.
C'est un mouvement perpétuel.
Donc en fait, c'est un coup de billard à plusieurs bandes. Donc je me sers d'un journal extrêmement respectable, qui a une force de frappe européenne qui est puissant. Voilà, l'équipe, c'est un journal que j'adore. Voilà, il ne s'agit pas de critiquer. Mais parfois, on est sujet, et moi ça m'arrive aussi, à des manipulations, à des envies d'agents pour mettre la pression sur un des négociants.
Plus que jamais, semble-t-il.
Et surtout dans un transfert à 100, 200 millions d'euros, où la commission des agents va être fantastique. Ceux qui ont fait sortir Neymar il y a 2 ans, ils peuvent en 2 ans faire revenir Neymar et donc en 2 ans toucher 2 commissions.
Deux commissions faramineuses.
Bon, Joseph Antoine Bell, je repose la question. Est-ce qu'ils peuvent se rabibocher? Est-ce que Neymar, il peut dire, ok... Désolé, bon, finalement, je veux pas partir. Vous m'avez insulté, mais c'est pas trop grave. Ça, c'est les supporters.
Non, mais ça, c'est
ce qui peut repartir pour un tour.
C'est les supporters. Le problème, c'est que le joueur, avant tout, il veut jouer.
Bah oui.
Donc, une fois que les dates sont passées, Neymar, il veut jouer.
Il voudra jouer.
Et puis, je vais vous assurer, le parc va l'applaudir.
Dès qu'il marquera.
Non seulement dès qu'il marquera. Neymar est un joueur tellement fort que tout le monde veut bien voir jouer. Donc quand il n'est pas blessé, il n'y a aucune raison. On ne l'a insulté au parc que précisément parce qu'il ne jouait pas.
Donc
ouais, le jour où il reviendra, on va l'embrasser.
Selon
ce sera
vous, en tout cas, si d'aventure il reste au PSG, Jean-Philippe Bouchard.
Non, mais on voit bien que toute cette agitation médiatique, elle part d'une seule chose, c'est qu'effectivement le père de Neymar a outé l'idée que son fils voulait quitter le club. Voilà. Donc, forcément, comme c'est Neymar, les autres clubs sont obligés de se positionner. C'est presque une question de politesse. Ils sont obligés de faire des offres. Sauf qu'ils, d'abord, ils n'en veulent pas forcément et n'ont pas les moyens de s'aligner. Parce que, encore une fois, le PSG veut du cash. La seule chose qui pourrait faire quand même bouger un petit peu les lignes, c'est que Messi a envie que Neymar revienne. Et ça... Messi au Barça.
Mais Messi est certes un magicien, mais il y a un principe de réalité.
Voilà, mais ce qui est génial, Jean-Philippe, c'est que si ça se fait pas, c'est quand même un peu le football qui aura gagné, parce que Zidane n'en veut pas, Valverde n'en veut pas, Gareth Bale veut pas venir à Paris, Rakitic voulait pas venir à Paris. C'est quand même à un moment donné, des joueurs, des entraîneurs ont décidé de leur avenir, de leur destin. Ça, c'est beau, ça.
Saïd Hamda.
Non, je pense que si le transfert ne se fait pas, Neymar se ravisera. Il a un moment de sa carrière où il a 27 ans, il peut pas se permettre de perdre du temps, et je pense que Paris travaille plus sur comment communiquer pour annoncer que Neymar reste plutôt que sur un transfert qui ne peut pas se faire. Tout à l'heure, Dominique expliquait que Gareth Bale ne veut pas aller à Paris. Gareth Bale, pour lui, le football reste quand même assez secondaire. Donc, je pense pas que le Real Madrid pourra le forcer à aller à Paris. Il vous dit, je ne signe pas le contrat. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, maintenant, je pense que Paris va surtout développer un modèle de communication pour annoncer que Neymar reste. Leonardo a déjà entamé en ce sens en disant que Neymar, c'est un bon garçon. Si Neymar devait rester, c'est pas problématique. Qui jouera. Donc je pense que c'est l'option la plus crédible à l'heure actuelle.
Neymar, il est de retour de blessure. Dominique, sera-t-il retenu, voire aligné contre Toulouse dimanche? Alors,
il est complètement apte. Compte tenu de la défaite à Rennes, évidemment que le PSG aimerait l'utiliser assez rapidement. Le problème, c'est que c'est au parc et qu'il y a 15 jours, ça a été un torrent d'insultes de la part des supporters. Alors, pour le retour d'un joueur qui veut partir, qui a pas la tête au club dans lequel il est actuellement, qui le paye, c'est pas forcément très judicieux de commencer contre Toulouse. Peut-être que à Metz, vendredi 30 août, à 2-3 jours de la fin du mercato, si les choses se sont un peu décantées, dans la discrétion du stade Saint-Symphorien, peut-être que c'est plus malin.
Le rendez-vous est pris donc.
Metz, c'est pas bien loin.
Ok. Avec ton gardien.
Donc on est à part. Je pense que les gens font en sorte qu'on soit à part. Et nous, on entretient cette identité d'être à part.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de te salir? Tu es sale? C'est quoi le problème?
On défend des couleurs qu'on ne porte jamais.
C'est un poste avec énormément de responsabilités. Moi, j'adore les responsabilités. Et c'est sûr que ce poste-là, il me va comme un gant. C'est pas mal, non? Tu vois?
Le gardien est particulier dans le jeu, il ne porte pas le même maillot que le reste de l'équipe, il est le seul joueur dont on a l'impression qu'il est tout seul. Il lui faut de la philosophie pour être singulier en étant commun, pour être solitaire à l'intérieur du groupe. Il faut avoir compris que cette solitude, au lieu d'être celle du marginal, doit être celle du leader. C'est bien dit, on dirait du Joseph Antoine Bell, ça tombe bien, c'est du Joseph Antoine Bell. Citation extraite du livre de David Lortolari, « À quoi jouent les gardiens de but, les numéros 1 en 100 questions ?» C'est le sous-titre aux éditions Marabout. Je ne sais pas si je l'avais dit en introduction. Juste avant, vous avez entendu les voix de Grégory Coupé, de Bernard Lama et de Steve Mandanda interrogés, tous trois, dans le cadre d'un documentaire réalisé par nos confrères de Canal+, en 2018, en cage, deux points, dans la tête des gardiens de but. Les gros esprits se rencontrent, mon cher David Lortolari. Votre livre, c'est une somme, un manuel, le manuel du portier, sans question, autant de chapitres, pour tout, absolument tout savoir sur ce poste très particulier. C'est vraiment le mot-clé, particulier.
Oui, on a voulu essayer de faire le tour. Alors, on se rend vite compte que c'est un poste extrêmement complexe, paradoxal, riche. On s'est pas concerté, Hugo, avant l'émission, mais j'aurais, moi, de moi-même cité effectivement cette formule de Joseph Antoine.
Elle est en exergue sur la couverture du livre. Hein,
oui, c'est une solitude, forcément, parce que tout indique visuellement, tactiquement, tout indique que le gardien, s'il n'est pas à l'écart, il est au moins à part dans une équipe, sur un terrain. Et pourtant, il faut qu'il soit souvent un leader, une locomotive, un homme fort, décisif, mentalement, physiquement peut-être aussi, quoique ce point-là puisse se discuter. Et vous aujourd'hui, on fait tous 1m95 quand on est gardien des grandes équipes, mais on s'aperçoit, quand on lit un peu le livre, que c'est pas forcément une nécessité. Donc plein de paradoxes comme ça, et je suis allé, moi, dans ma démarche, jusqu'à interroger aussi des gens qui sont face aux gardiens, c'est-à-dire les avant-centres, pour m'apercevoir, et c'est l'un des multiples paradoxes de ces recherches, que la personne dans le football qui peut-être est la plus proche du gardien, outre l'entraîneur, c'est peut-être l'avant-centre.
Oui, son meilleur ennemi, son double. Parmi les intervenants de votre livre, Joseph-Antoine Bell, Franck Simon, tiens, encore un membre de l'équipe de RFI, gardien à ses heures perdues.
Non, pas du tout à ses heures perdues.
Gardien tout court.
Gardien
tout court, alors.
Extrêmement présent.
Gardien quand il n'écrit pas quand il ne noircit pas les pages de France Football. Christophe Lolichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea. C'est pas rien. Lionel Charbonnier, champion du monde, troisième gardien lors de la Coupe du Monde 98. Le titre de l'un de vos chapitres, qu'est-ce qui pousse un enfant à vouloir être gardien de but? Je voulais qu'on commence par là. Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce qui a poussé le jeune garçon que vous étiez à devenir gardien de but? Pourquoi est-ce qu'on veut devenir gardien de but?
Je suis pas sûr que ce soit la même chose pour tout le monde. Mais ce que je
Alors
sais...
Alors pour vous.
Ce que je sais en observant les autres, parce que je dois d'abord parler pour tout le monde, pour tous les
Bien
jeunes,
sûr.
C'est simplement précisément qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Je crois que ça, c'est quelque chose qui attire les enfants, qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Et il fait ce que tous les enfants aiment faire, se rouler par terre. Et donc, quand vous venez à l'entraînement des pros, ce que vous constatez, c'est que chaque fois qu'il y en a un qui veut aller dans les buts, c'est surtout pour plonger. Il veut s'envoyer en l'air, et voilà, donc c'est ça, faire le gardien de but. C'est après qu'on découvre qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que ça, que simplement tomber. D'ailleurs, à un moment, je crois que plus tôt dans la carrière, ce sera mieux. Plus tôt vous comprenez que plonger n'est pas votre rôle, mieux ça vaut. Parce que ça voudra dire que vous avez compris le rôle et que votre rôle est surtout d'être leader, d'empêcher que vous ayez à plonger, d'empêcher qu'on ait à vous utiliser. Et mieux vous le faites, et plus vous êtes efficace. Donc, oui, les enfants ont choisi d'y aller pour pouvoir tomber. Puis, en réalité, généralement, on déménage quand on n'a pas le caractère. Parce que, évidemment, personne ne regarde ailleurs quand l'équipe encaisse un but. Ça veut dire que quand l'équipe encaisse un but, tout le monde a les yeux vers le gardien de but. Et si vous n'êtes pas costaud, eh bien, tout le monde vous parle, tout le monde vous reproche. Le foot commence comme ça quand on est plus jeune. On cherche des coupables à chaque fois. Donc, à chaque but, on s'engueule. Il faudrait qu'il y ait chez le gardien une âme de martyr pour accepter de rester. Ou alors un vrai leader, non seulement qui a anticipé pour en prendre le moins, ce qui fait déjà qu'on vous engueule moins, et en plus, en ayant anticipé, en ayant compris votre rôle, vous les dirigez et vous pouvez désigner le coupable à chaque but.
Donc être à part, c'est déjà être seul quand même, si je vous comprends bien. Donc il faut être le leader, il faut avoir le sens du collectif tout en étant seul. C'est quand même...
Il faut...
On revient sur ce paradoxe dont parlait
Absolument.
David Ortolari.
Vous êtes à part, vous êtes solitaire, mais pour réussir, il faut être totalement dedans. Donc le gardien de but, je sais pas, je suis sûr que tous ceux qui ont été bons ont bien ressenti ça. Le gardien de but est le type qui doit savoir ce que pense chacun de ses partenaires à chaque instant. Et qui doit, sur le terrain, savoir ce que pense chacun de ses adversaires à chaque instant. Moi, par exemple, à l'époque où on disait, mais c'était fantaisiste, de jouer hors de la surface, c'est que pour jouer hors de la surface, faut que vous sachiez quel est le joueur adverse qui envisage de vous lober la prochaine fois qu'il a le ballon. Il faut le savoir avant. Et donc, quand il va recevoir le ballon, lui, il pense qu'il peut vous lober, mais comme vous le saviez avant, vous avez fait déjà 4 pas en arrière, il peut pas. Donc, voilà, vous avez tout ça chez le gardien de but.
Saïd Hamdaboulier.
Je voulais poser une question, je voulais profiter qu'on
du
fait de parler des enfants, parce que j'y étais il n'y a pas encore si longtemps que ça. Et pourquoi quand on est enfant, on met toujours le joueur le plus nul au goal? Alors ça peut déboucher sur d'autres questions. Pourquoi ce poste effraie-t-il tant? Est-ce que c'est par la responsabilité?
Est-ce que c'est toujours vrai ça, David Dortelaire?
C'est souvent vrai.
C'est une histoire qui est effectivement tenace. En ayant un œil aiguisé vers l'Allemagne, je me suis aperçu que, avec l'arrivée d'Emmanuel Neuer, les enfants recevaient tous à Noël la tenue du gardien de but de l'équipe nationale. Donc, il y a aussi l'aspect intérêt de l'enfant pour un poste un peu à part, être un peu différent, être un peu peut-être sur un piédestal si on prend la chose positivement. Mais c'est vrai que même pour ma modeste expérience personnelle, que je me rappelle dans la cour d'école où ça faisait mal aux genoux quand on tombait, si vous étiez un peu moins bon à dribbler ou si votre contrôle allait un peu plus loin, ne serait-ce qu'avec une orange ou une balle de tennis, si le contrôle allait un peu plus loin que le reste des joueurs de l'équipe, eh bien vous retrouviez plus souvent dans les buts. Et à ce moment-là, c'est là que je remercie encore Joseph Antoine. À ce moment-là, si vous n'avez pas un caractère fort, affirmé, soit pour aller à l'encontre de cela et dire « je vais faire mieux la prochaine fois », soit pour vous affirmer dans les buts, vous disparaissez du système.
Dominique Sévrac, votre regard sur ce poste particulier, on sait tous ce qu'est un gardien de but et en même temps, ça reste un mystère. C'est vraiment le paradoxe de ce poste.
Oh, ça reste un mystère, mais les mythes sont souvent des joueurs offensifs, des joueurs créatifs, des joueurs qui ont fait basculer des matchs comme Maradona, comme Pelé, comme Platini, Zidane, Cruyff. Mais j'ai la conviction qu'on ne peut pas jouer au football sans gardien. Ça, c'est sûr. On peut jouer sans attaquant. Je pense que l'Espagne a été championne du monde sans un pur neuf. Je pense qu'on ne peut pas être joué au football au très haut niveau sans gardien. D'ailleurs, dans une liste d'une sélection, ils sont trois. C'est le seul poste où on triple la chose parce que si le premier se blesse, le deuxième va jouer et il faudra un remplaçant parce qu'on ne peut pas jouer sans gardien. Donc on ne peut pas ne pas avoir de remplaçant.
Il y a une époque, ça s'est vu.
Oui, mais c'est quand même
vu Alain Giresse dans les buts.
Donc c'est oui, mais voilà, c'est quand même assez rare. C'est, le but n'est pas de mettre Alain Giresse dans les buts. Le but c'est quand même.
Les circonstances font qu'un joueur de champ peut se retrouver dans les buts.
Voilà.
Les circonstances d'un match.
Cet épisode là qui a marqué l'histoire du championnat il y a 30 ans. Effectivement, il n'y avait pas de gardien remplaçant, donc Alain Giresse il est collé, c'est le plus petit joueur de l'équipe, donc c'était pas forcément très heureux. Mais ça prouve bien en fait l'importance du gardien de but.
C'est qu'il en faut un.
Et pour conclure sur l'histoire des cours d'école où effectivement le plus mauvais va dans les buts, en fait ça ne reste que dans la cour d'école. Dès qu'on passe un peu en foot loisir et dès qu'on commence à avoir un tout petit peu de tactique, on se rend bien compte que c'est les équipes qui ont le meilleur gardien qui gagnent.
À 9, 10, 11, 12 ans, voilà. C'est ça.
Ouais. Ah, donc on dès qu'il y a si vite, un bon gardien qui est capable aussi, d'organiser, ça fait gagner l'équipe à un bas niveau.
Eh bien, tout à l'heure, quand je disais que c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, en tout cas pour moi, c'est pas parce que j'étais moins bon au pied. J'ai choisi de jouer dans les buts et j'ai toujours été bon au pied. Quand je suis arrivé en France, beaucoup de gens pensaient que je narguais les attaquants parce que j'étais bon au pied, que j'étais hors de la surface. Certains pensaient que c'était fantaisiste. Donc, et le jour où on a changé le règlement... Premièrement, on m'a dit, mais Jo, c'est pour toi qu'on a changé le règlement. Heureusement, je faisais partie de ceux qui ont changé le règlement. Et je vais vous raconter rapidement une anecdote. Quand on a changé le règlement, j'ai bien vu que la plupart des entraîneurs n'avaient pas compris.
La passe en retrait, vous voulez
dire.
Au début des années 90, oui. La passe en retrait, on ne peut plus la capter à la main.
Voilà. Alors, tous les entraîneurs disaient à leurs gardiens, dès qu'on te donne, boum, devant. Et moi, évidemment, c'est pas comme ça que j'avais compris le changement. D'autant qu'à la FIFA, j'avais défendu la communication de la FIFA. Je leur ai dit, si vous dites qu'on a enlevé un privilège aux gardiens de but, personne ne veut aller là où on enlève des privilèges. Mais si vous dites qu'on a intégré définitivement le gardien de but au jeu, tout le monde voudra faire partie des gardiens de but. Et je leur ai fait le pari, je dis, vous verrez des buts gag en ce moment au début. Mais tous les enfants qui apprendront à jouer avec la nouvelle réglementation seront les meilleurs joueurs de leur équipe. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Le meilleur joueur de chaque équipe, c'est le gardien. C'est le seul à vous frapper un ballon arrêté, pied gauche ou pied droit. Et donc, moi, j'ai eu ce problème avec Jacques Santini, alors que je jouais à Saint-Étienne. On est allé jouer à Bordeaux. À l'époque, passe en retrait au gardien, boum. Et moi, j'ai dit non. Je connais l'histoire du foot. La rentrée de touche à la main, elle est née du fait que c'est le maladroit qui a mis le ballon en touche, qui avait la punition d'aller jouer de la main. C'est comme ça que c'était parti la rentrée de touche. Et donc, celui qui met le ballon en touche, pour tout le stade, pour tout le public, c'est le bourrin. Donc, moi, je ne veux pas être votre bourrin. Si vous me donnez le ballon, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on perde le ballon. Donc, si vous me le donnez, il faut le solliciter à nouveau.
Et là, on est vraiment dans les préceptes des entraîneurs type Guardiola et Gans, qui a façonné le gardien moderne, parce que ce poste, il a évolué, ça devient presque un joueur comme les autres.
Pas presque, ça devient le premier joueur, c'est avec lui que vous jouez, et lui doit réorienter le jeu. Et ça, donc, à Bordeaux, il y a Bordeaux-Saint-Etienne, et là, les Stéphanois, en réalité, sont pris de panique.
Joseph Antoine, il a un peu inauguré cette lignée de gardiens qui savent jouer au football, qui sont un des joueurs comme les autres entre guillemets, même s'il a le droit de prendre le ballon avec les mains. Mais aujourd'hui, le poste il est ça. Et donc tout ce que vous venez de dire, incarné par Neuer, qui était vraiment quasiment un joueur de champ et au Bayern et en sélection allemande, c'est comme ça que l'Allemagne est championne du monde en 2014. Mais il y a aussi un côté je domine ma surface aussi, c'est-à-dire que vous avez 16,50 à défendre. Et aujourd'hui, c'est quand même des joueurs qui ont une puissance, une détente, des bras, une allonge phénoménale. On est avec des monstres physiques. Alisson à Liverpool, Neuer, Loris, Courtois, parmi les plus grands gardiens du monde, ce sont des gens qui ont un déploiement, une envergure de bras qui est absolument hallucinante. Aujourd'hui, il y a une taille en dessous de laquelle vous ne pouvez pas jouer comme gardien.
Moi, je voudrais qu'on joue un petit jeu, un petit quiz qu'on vous a préparé. Musique Maestro. On va d'abord laisser vos petits camarades jouer, parce que vous avez peut-être les réponses, David Lortolari. Quel gardien a marqué le plus de buts dans l'histoire du football? Parce qu'il y en a qui marquent des buts.
Grégory Vimbé.
Non, non. Ancien gardien de Lille. Alors là, faut vraiment essuyer nos plus jeunes.
Iguita,
c'est un Sud-Américain.
C'est un Sud-Américain, oui.
Iguita, non, c'est pas lui.
Non, Iguita n'en marquait pas. C'est un Sud-Américain qui a joué à Strasbourg.
Ah oui. Comment il
non, c'est pas lui. Je sais qui vous pensez. C'est pas Chilavert.
Chilavert, Américain,
qui tirait les coups francs également.
Et là, il y en a un qui joue à. C'est Ario qui joue. Qui tire les coups francs aussi, qui tire les pénalties.
Vous avez la réponse ?
Rogério Ceni.
Exactement.
Alors, une centaine de buts. Hein.
Avec Sao Paulo, le club de toute sa carrière, 132 buts marqués apparemment. Il tirait les coups francs, les pénalties, on imagine, très adroit sur le coup
fortement.
Le plus âgé à avoir remporté une Coupe du Monde, c'est très facile.
Zoff.
C'est Dino Zoff, effectivement. Preuve. D'ailleurs, c'était un peu avant l'ère Joseph Anton Bell. Preuve, et ça se vérifie encore maintenant qu'un gardien a une longévité grande que les autres joueurs. Ça aussi, c'est un atout.
Oui, c'est un atout, mais il faut quand même se surveiller pour ne pas faire la saison de trop.
Fatigue, elle est mentale ou physique?
Non. Elle est, j'allais dire, elle est biologique. C'est qu'à un moment, vous allez un petit peu moins vite. C'est prouvé qu'avec l'âge, vos fibres rouges deviennent blanches et que donc elles se contractent un petit peu moins vite. Et donc, du coup, vous perdez de la vitesse. Or, si vous êtes un bon gardien de but, c'est que vous sortiez vite, c'est que vous sautiez haut. Et donc, ces qualités de détente et de vitesse diminuent. Elles ne diminuent pas de manière forcément perceptible par tous, mais vous savez que vous allez moins vite. Aujourd'hui, je peux en parler parce que finalement, tout le monde a compris. À commencer par lui-même, c'est Buffon à Paris. J'ai regardé, j'ai vu plein de gens dire des bêtises. Buffon n'y était plus parce qu'il était tout simplement un petit peu moins vite. Et donc, soit il pouvait pas sortir, soit quand il sortait, il était en retard. Et puis, il y avait probablement un problème d'acuité visuelle qui faisait qu'il voit les ballons un petit peu moins bien. Et donc, il y a eu ces deux buts qu'il a encaissés, je sais plus à quel match, où là, tout le monde a compris qu'il fallait passer à autre chose.
Et on doit surtout se souvenir que, et on le sait d'ailleurs en France, que Buffon, c'est avant tout ça.
Un bon centre pour Trezeguet.
Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane.
Oh, Zizou !
De la tête et la claquette de Buffon.
Oh, Zizou !
Oh, la tête de Zidane et la parade de Buffon.
Un bon centre et Zidane. Oui. Magnifique arrêt et magnifique tête là.
A tout était bon.
Tout était beau dans cette action de la finale de la Coupe du Monde 2006. La tête de Zidane enlevée magistralement par Buffon, qui mérite un petit peu mieux qu'une fin de saison un peu...
Absolument.
Une année un peu compliquée au Paris Saint-Germain. La dernière question de notre quiz, elle est ouverte finalement. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Jean-Philippe Bouchard, quel est selon vous le meilleur gardien de but de l'histoire?
De l'histoire, c'est compliqué. C'est si compliqué. On convoque toute l'histoire,
celui que
on va dire Yachine.
Le vôtre,
voilà.
Le vôtre.
Si on convoque toute l'histoire, on va dire Yachine. En plus, c'est un petit peu objectivé. C'est le seul qui a eu Ballon d'Or. Voilà.
Ancien gardien soviétique.
On est couvert. Ouais. Après, sur la période plus contemporaine, je pense que Neuer a donné au poste une dimension que vraiment jusque-là incomparable.
Dominique Sévrac.
Moi, le premier qui m'a donné des émotions, c'est Bruce Grobbelaar, le gardien de Liverpool.
Quelle histoire, gardien zimbabwéen de Liverpool.
Moi, c'est lui qui m'a, c'est le gardien de mon enfance, quoi. C'est celui qui m'a emmené haut, m'a fait monter au rideau.
Quelles années pour nos plus jeunes auditeurs?
Les années 80.
Avant 80.
Il a mal terminé quand même.
Oui. Ça, pour l'aspect excentrique, là, on est bien tombé.
Oui,
des problèmes avec la justice, des problèmes de matchs
de corruption.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu ça à la fin.
Moi, je parlais du gardien.
Le gardien, effectivement, avait réussi à montrer qu'on pouvait être décontracté en jouant gardien de but. Et il paraissait pas sérieux, mais il l'était. Et Bruce Grobbelaar faisait rire. Mais il attrapait le ballon et il sortait bien.
Il y a cette séance de tir au but hallucinante.
Oui, oui, contre. Oui, je crois.
Ah, ouais, oui, les jambes qui flageolent.
Voilà,
volontairement.
Voilà, il essaie d'impressionner le tireur de penalty en face de lui.
Mais il n'était pas zimbabwéen, il était rhodésien.
Et après, il a porté couleur du Zimbabwe. Là, ça devient un peu compliqué.
Géopolitique.
Joseph-Antoine Bell, quel est le meilleur gardien, non plus de l'histoire, mais à l'heure actuelle? Neuer, c'est sûr, il est son rival.
Je sais pas si après la blessure, parce qu'il faut rester vigilant, je crois. Il l'était indiscutablement avant la blessure. Puis cette blessure, j'ai pas encore eu la preuve qu'il a totalement récupéré. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'équipe? Parce qu'après tout, le gardien dépend aussi de l'équipe. Mais j'ai eu comme l'impression qu'au retour de blessure, il a eu moins d'influence et son équipe n'a pas prouvé qu'elle s'en sortait bien. Bon, cette saison, on verra s'il est revenu. Mais moi, je pense que Neuer, quand il n'est pas blessé, donc s'il est vraiment en forme, il remplit les critères que j'adore pour les gardiens de but. Un type qui n'a pas peur aux pieds, qui a confiance en lui, et qui, en ayant confiance en lui, parce que ça aussi c'est la clé, si vous avez confiance en vous, vous donnez cette confiance à vos partenaires, et qui vous font le jeu de va-et-vient, qui vous la rendent bien, donc du coup, ils se croient invincibles, et vous savez que vous l'êtes grâce à eux.
L'Allemagne, pays de gardiens de but, il y a des régions qui savent former de grands gardiens de but,
des
l'Allemagne,
écoles, oui.
Le Cameroun.
Mais l'Allemagne, c'est particulier parce qu'il y a, on peut citer un très très bon gardien dans toutes les décennies depuis les années 50, mais ils sont tous très différents. Donc on peut pas dire il y a une espèce de prototype, une espèce de stéréotype. Et moi, en fouillant évidemment dans l'histoire, je suis allé bien au-delà des deux gardiens qui ont été les tout premiers à m'impressionner dans mon propre chemin vis-à-vis du football, qui étaient Joël Batz et Joseph-Antoine Bell. C'est une question de génération. Mais après, il y a même avant Yachine, qu'évoquait à juste titre, je trouve, Jean-Philippe, même avant Yachine, en URSS, il y a eu déjà des gardiens intéressants qui relançaient à la main, qui avaient un côté un peu révolutionnaire. TACF, ça vient un peu après aussi.
Non, avant, avec le Brésil de 70,
avant,
par
oui.
exemple, Félix, le gardien brésilien, qui n'était pas très, très, très bon, du moins dont on ne disait pas qu'il était bon, avait le fait de relancer à la main. C'était peut-être le jeu du Brésil, et Félix, il dégageait presque jamais au pied, c'était toujours à la main. Mais moi, je sais qu'en ayant pensé qu'on devait partir de derrière, souvent, je me suis vu reprocher, mais il fallait avoir la tête dure pour ne pas écouter tout ça. Je relançais à la main et pas au pied. Pourquoi? Simplement parce qu'au pied, ça veut dire que votre partenaire qui va recevoir le ballon reçoit une passe de 70 mètres et qu'il est bien compliqué de contrôler un ballon qui vous arrive de 70 mètres avec un adversaire dans le dos. Alors que quand vous donnez à la main, vous jouez à 10, 20, 30 ou 40 mètres. Et en plus, à la main, ce que les jeunes, là, je parle pour les jeunes, faut qu'ils comprennent. Si vous jouez à la main, vous devez être précis. Donc, ça sert à rien d'être capable d'envoyer le ballon à la main 50 mètres, mais qui ne serait pas précis.
Et Louis van der Sar, il était très précis avec ses longues relances.
Les anciens, Hugo parle aussi de Marcel Carnu, hein, par exemple, les anciens, les plus anciens parmi les Français, ils disent que c'est ceux qui l'ont vu jouer, que c'était un gardien déjà très moderne. Mmh. Beaucoup de, par exemple, la génération Jean-Paul Belmondo parle beaucoup de ce gardien-là qu'ils ont vu jouer avant-guerre ou juste après la guerre. Quoi.
Donc,
Jean-Philippe Bouchard parlait de Lev Yachine, seul gardien à avoir soulevé le ballon d'or. Après lui, Oliver Kahn, Neuer, Buffon ont échoué de peu. Ils n'étaient pas loin de soulever ce trophée. Globalement, le gardien, c'est quand même un petit peu le grand oublié de ce type de récompense. Il y a une forme d'ingratitude qu'il faut assumer lorsqu'on est gardien, Jean-Philippe Bouchard.
C'est un petit peu paradoxal, en effet, parce que c'est évidemment le poste le plus individuel du foot. Enfin, le plus particulier. Ouais. Donc, on peut se focaliser sur lui. Mais je pense que c'est aussi un peu à cause de ça. C'est qu'en fait, on lui reproche un peu plus les défaites qu'on lui accorde les victoires.
Les victoires, absolument. Absolument. Mais en fait, le problème, c'est que le gardien n'est jamais directement responsable de victoires. Il est responsable de la non-défaite. Donc, il vous permet de, mathématiquement, de ne pas prendre de but. Quand on ne prend pas de but, on fait match nul. Donc, mais maintenant, il vous permet de gagner parce que tant que vous n'avez pas pris de but, vous n'êtes pas loin de gagner. Donc, et puis, le gardien, je crois que finalement, c'est compensé parce qu'il n'y a pas une équipe dont les supporters ne connaissent pas le gardien. Quand il est bon, il est celui qu'on adore. Allez donc à Marseille et dites Joseph-Antoine Bell, allez à Bordeaux, allez à Saint-Étienne, tout le monde, tous les enfants, et en plus, comme c'était si particulier, tous les enfants étaient les petits copains de Joseph Antoine Bell. Donc le gardien de but, s'il n'a pas le ballon d'or, il a déjà l'amour des gens et puis voilà.
Mais l'image elle change parce que les deux titres de champion du monde de la France, tout le monde dit quand même que Barthez et Lloris ils sont pour beaucoup.
Oui.
Donc je pense que l'image elle change petit à petit. Barthez, je pense, hein, si on est un observateur, c'est peut-être le plus grand gardien de l'histoire de la France. Peut-être.
Et il était très populaire auprès du grand public. Pas du tout. On parle pas du tout d'un inconnu ou d'un joueur.
Il est connu pas des spécialistes. Mais il est populaire.
Oui.
À quoi jouent les gardiens de but? Le livre de David Lortolari aux éditions Marabout, préface de Pascal Olmeta, ancien portier également de l'Olympique
de Marseille. Plein de paradoxes lui aussi.
Plein de paradoxes également. Peut-être le sujet d'une prochaine émission.
Ich finde ja, das beste Gleitmittel ist Schmieröl.
Gnabry, Lewandowski at full throttle, must score!
Et Robert Lewandowski pour son 203e but!
Gewonnen, Sancho, recht am Strafraum, bringt den Ball an die Linie, und dann kommt er herein und der Ausgleich, der Ball ist drin, Paco Alcázar gleicht aus in der dritten Minute, Paco Alcázar.
Paco Alcácer avec l'accent allemand. La saison a repris outre-Rhin, comme on dit, vue de France. Nous vous attendions, David Lortolari, pour en parler. Petit résumé des épisodes précédents sur ce qui s'est passé dans ce mois d'août en Allemagne. La défaite en Supercoupe du Bayern Munich contre Dortmund. Le géant bavarois a ensuite mal débuté la Bundesliga. Ça, c'était le week-end dernier. Match nul de partout contre le Hertha Berlin. Mauvais départ. En clair, pour le Bayern Munich, après un été pas forcément simple sur le plan du mercato, départ évidemment des légendes Ribéry, Robben, arrivée avortée de Leroy Sané, car blessé, finalement Coutinho et Perisic ont pu renforcer l'attaque bavaroise qui avait accueilli cette équipe du Bayern, qui avait accueilli des défenseurs français un peu plus tôt, Hernandez et Pavard. Est-ce qu'il y a le feu au lac du côté du Bayern, David Lortolari?
C'est bien d'avoir dit en clair, départ manqué, Hugo, parce qu'au Bayern, la communication très officielle et très pompeuse parfois dit le contraire. Ça dit que ouais, on a très bien joué dans ce match nul de 2 contre le Hertha Berlin lors du premier match. Effectivement, si on regarde les chiffres, il y a plus d'occasions, il y a plus de possession de balles, il y a un jeu plutôt sympa. À l'arrivée, il faut 18 occasions pour marquer un but. J'exagère à peine. Et le Hertha Berlin, de l'autre côté, avec des joueurs moins ronflants.
Oui, il y a Rekik.
A marqué deux fois. Oui, qui joue plutôt pas mal d'ailleurs.
Rekik, ancien Marseillais.
C'est vrai.
Il est, sympa d'avoir il est particulièrement rugueux, mais en l'occurrence ça a marché avec cette défense un peu robuste et puis l'attaque avec un ancien aussi, si je me trompe pas, de la Ligue 1, qui est Vedad Ibisevic, il me semble qu'il est passé
par le PSG.
Oui. Donc départ manqué sur le plan comptable parce que le grand rival qui s'est affirmé et qui veut rivaliser cette saison, qui s'est renforcé aussi, Borussia Dortmund, lui, a eu certes un faux départ en encaissant un but dès la première minute contre Augsbourg, mais ensuite s'est réveillé et ô combien.
Succès 5 buts à 1 pour le Borussia Dortmund. On reste encore un peu sur le Bayern Munich. On la guette cette saison un petit peu de, non pas de déclin, mais de transition, histoire un petit peu de relancer le suspense. Est-ce que, avec la passation de pouvoir qui tarde, les départs de Ribéry, Robben, n'ont pas vraiment encore de remplaçants, est-ce que c'est pour cette année, entre guillemets?
C'est marrant, Hugo, parce que la semaine dernière, on était en train de parler des déclarations de Neuer et de Lewandowski qui pointaient les faiblesses du recrutement. Et cette semaine, on a vu Ribéry arriver en superstar à Florence, pendant que Coutinho rejoignait un petit peu dans la discrétion, voire l'anonymat, le Bayern Munich, qui ne alignera d'ailleurs pas ce week-end, puisqu'il n'est pas encore prêt. Donc on ne le verra pas avant la semaine prochaine. Donc est-ce qu'avec Coutinho, vous avez calmé le vestiaire, vous avez réglé vos problèmes offensifs? Pas sûr. Moi, je pense que le problème du Bayern de ces dernières années, c'est de ne pas avoir trouvé un grand buteur. C'est ça qui manque.
Lewandowski, c'est pas un grand buteur.
C'est un vieux buteur. C'est un bon buteur. Est-ce que c'est du niveau de Kun Agüero, d'Aubameyang, de Benzema, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Cavani? Est-ce que c'est de ce niveau-là? Je ne suis pas sûr. Il a failli aller, par exemple, au Real Madrid. Je suis pas sûr que ça soit, il est pas allé. Donc, il y a peut-être des doutes au Real sur le niveau de Lewandowski. Moi, je trouve que le Bayern a manqué, de trouver non pas des joueurs de côté, ça ils sont forts, mais le buteur, le finisseur.
Coutinho, Perisic, arrivé, je sais pas si je l'avais cité.
C'est quand même pas mal. Hein,
il y a Coman et Gnabry qui sont également là. Ça vous paraît suffisant pour remplacer les légendes Robben et Ribéry et Jean-Philippe Bouchard.
Ça, on verra, mais Coutinho, c'est quand même, c'est vrai qu'il a, il a déçu
au Barça.
Au Barça, mais bon, c'est quand même
à
Liverpool, c'était ouais. Un des top players en Europe quand même. Donc, et il a que 27 ans, hein, il est vraiment potentiellement, il peut faire une saison, une très très grosse saison. Donc voilà. En plus, normalement, le Brésil va pas avoir trop de matchs cette année, donc enfin on peut se dire que
c'est un bon coup réalisé par les dirigeants bavarois.
En plus, selon pour connaître la façon dont le Bayern recrute, alors ça veut pas dire qu'ils se plantent pas, hein, mais ils ont eu leurs erreurs aussi, mais ils suivent en général, ils suivent les joueurs pendant très longtemps avant de les recruter, et quand ils y font un coup, et c'est quand même un coup de faire Coutinho, en général ils savent ce qu'ils font, hein. Avant de prendre Ribéry, ils suivaient Ribéry depuis qu'il était à Boulogne quand même, hein, avant qu'il arrive au Balai, en Allemagne. Donc en fait ils savent à peu près où ils vont et si les joueurs sont capables de s'intégrer ou pas.
Plus, là, dans la Coutinho n'a pas de risque, c'est 8,5 millions en prêt, c'est ça?
Oui, il y a un salaire conséquent à payer,
mais Coutinho, je pense que c'est un très très bon pari pour le Bayern et ça s'est passé exactement comme il fallait, c'est-à-dire qu'il est arrivé en presque l'anonymat, donc il n'a pas de pression, c'est pas comme au Barça où Neymar était parti et où tout le monde savait
qu'il avait coûté très cher.
Il avait coûté très cher, il fallait venir remplacer Neymar qui lui avait réussi. Donc là, il arrive au Bayern, il n'a pas coûté cher, il n'a pas le poids du transfert et il arrive un peu incognito alors qu'on sait qu'il est fort, il est beaucoup plus fort que la réception qu'il a reçue. Donc je crois qu'il va réussir une belle saison là-bas, il va se refaire.
En plus, si on est un peu chauvin, on a intérêt à regarder un peu le Bayern parce que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de Français que
même avec le départ de Ribéry, Michael Cuisance qui vient d'arriver
ouais.
aussi,
ouais. Le ancien en provenance de Gladbach.
On regardera quand même plus Pavard, Hernandez et Tolisso quand même. On regardera plus
ils joueront sans doute davantage.
On regardera plus les champions du monde que Michael Cuisance pour qui j'ai beaucoup de respect.
Saïd Hamdan, notre petit jeune à nous.
Je vais dire un peu moins de bien du Bayern, pour moi, leur mercato est un peu brouillon, dans le sens où ils savaient qu'il allait avoir des grands départs et ils n'ont pas anticipé. Ils se sont intéressés assez tard à Leroy Sané. Malheureusement, il s'est blessé, donc le plan a échoué. Ils se sont très vite renforcés en défense avec Hernandez, qui est pour moi une excellente recrue. Pavard, je suis beaucoup moins convaincu, mais laissons-lui le bénéfice du doute. Il s'installera cette année dans la défense bavaroise. Mais en attaque, on savait que Robben et Ribéry allaient partir. Perisic, c'est un très bon joueur, mais c'est un trentenaire, donc il commence à rentrer sur la fin. C'est un joueur qui va servir 2-3 ans. Coutinho, il y a une option d'achat à 120 millions d'euros. Je vois mal le Bayern dans sa politique où on a du mal à passer la barre des 100 millions à l'acheter. Donc Coutinho, peut-être, il va
c'est
pas
négociable.
Réussir à s'incorporer dans cette équipe parce que c'est dur sur court terme.
David Lortolari, le Borussia Dortmund qui démarre fort, c'est pas nouveau. Va-t-il enfin être le rival quelque part que les observateurs attendent, histoire qu'il y ait un peu plus de suspense.
Il a essayé en tout cas d'opérer les corrections qui s'imposaient, c'est-à-dire plus d'expérience dans la défense en faisant revenir Mats Hummels, alors que la défense talentueuse avec les Agadou, avec les Akanji, avec les Diallo avait montré quelques signes d'inexpérience la saison dernière, donc on a essayé de corriger là. On va voir si Hummels, qui est maintenant un peu plus lent qu'il n'a été, ne va pas être un poids. Je pose la question, je suis pas en train de l'affirmer. Et en attaque, on a augmenter la concurrence en faisant venir aussi de bons joueurs comme Julian Brandt par exemple, qui va être en concurrence, Thorgan Hazard aussi, avec les joueurs qui étaient déjà présents. Donc on s'est donné les moyens à Dortmund de rivaliser et de briser l'hégémonie de 7 ans du Bayern. Mais la question va vite se poser aussi, c'est compliqué le football avec tous ces bons joueurs. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir quelques-uns qui vont avoir envie de jouer plus et créer un peu de tension dans le vestiaire?
Vous viendrez nous en parler sur ce plateau. Merci David Lortolari, merci Joseph-Antoine Bell, merci Jean-Philippe Bouchard, merci Dominique Sévrac, merci Saïd Hamdan, ça en fait des gens à remercier. Eux, on n'oublie pas évidemment Laurent Salarnaud à la réalisation, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin. Radio Foot revient demain avec Rémi Ngono et le Café des Sports en direct sur Facebook. En attendant, excellente soirée à l'écoute de RFI.